de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la nomination d'un ministre des Affaires étrangères par intérim était normale. Ambassadeur Iwan est convaincu que les élections de 2024 dans sa région seront pacifiques. Brun a déclaré que la transition énergétique doit être réalisée pour atteindre zéro émission de carbone. KKP ouvre un accès au marché alternatif pour les exportations de crevettes. Des jeunes Indonésiens visitent le Japon dans le cadre du programme Genesis. Mise en œuvre du KEN a un impact positif et significatif sur la durabilité de l'économie régionale et nationale. Voici le journal complet. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré que la nomination d'un ministre des Affaires étrangères était une affaire normale au sein du gouvernement et qu'elle était effectuée depuis longtemps lorsque le ministre concerné n'était pas en Indonésie. Cette déclaration a été transmise par Lalu Muhammad Iqbal suite à la nomination du ministre de la Communication et de l'Informatique, Budi Aris Setiadi, au poste de ministre par intérim des Affaires étrangères lié à la question de la démission de Retno Marsudi du cabinet du gouvernement du président Joko Widodo. Iqbal expliquait que la ministre des Affaires étrangères Retno est actuellement à New York aux États-Unis pour assister à la session de débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza. En dehors de cela, la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi tiendra également des réunions avec un certain nombre des ministres des Affaires étrangères d'autres pays. Pendant ce temps, selon Iqbal, le vice-ministre des Affaires étrangères Pahala Nugraha Mansuri est également à Kampala, en Ouganda, pour assister au 19e sommet du mouvement des non-alignés. Étant donné que la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et le vice-ministre des Affaires étrangères Pahala Nugraha n'étaient pas en Indonésie en même temps, le président a nommé le ministre de la Communication et de l'Informatique Budi Ari au poste de ministre des Affaires étrangères par intérim. L'ambassade extraordinaire et plénipotentiaire LBBP de la République d'Indonésie en Bulgarie, en Albanie et en Macédoine du Nord, Iwan Bogananta a assuré que les élections de 2024 dans sa région accréditée seront animées, pacifiques et intégrées. L'ambassadeur Iwan expliquait lundi dans sa déclaration que l'ambassade d'Indonésie à Sofia avait été activement impliquée depuis le début de la formation du comité électoral à l'étranger, PPLN, jusqu'à la collecte des données sur les citoyens indonésiens pour déterminer la liste électorale finale des PT dans la zone de travail de l'ambassade de l'Indonésie à Sofia, qui comprend la Bulgarie, l'Albanie et la Macédoine du Nord. Selon lui, l'équipe de PPLN Sofia a collaboré de manière optimale avec l'équipe de l'ambassade d'Indonésie à Sofia lors de la collecte de données sur les citoyens indonésiens et de la socialisation des élections afin de fournir des informations et de sensibiliser le peuple indonésien là-bas. À chaque réunion, selon l'ambassadeur Iwan, sa partie exhorte toujours les citoyens indonésiens à participer activement au succès des élections de 2024 et les invite à être politiquement conscients et instruits et à devenir des électeurs intelligents. La transition énergétique doit être menée pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone à zéro émission de carbone en 2060. C'est ce qu'a transmis le chef du Centre de recherche sur la conversion et la conservation de l'énergie de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRAN, Supriyadi Alinandar, à Antara, lundi 22 janvier, concernant la discussion sur la transition énergétique dans le débat des candidats à la vice-présidence, dimanche soir 21 janvier. Supriyadi a déclaré que l'objectif du gouvernement visant à atteindre zéro émission nette NZE ou zéro émission de carbone en 2060 est contenu dans la feuille de route NZE 2060 ou plus rapide. Dans le but d'atteindre zéro émission de carbone, des mécanismes de captage, de stockage et d'utilisation du carbone, l'efficacité énergétique ainsi que l'utilisation de nouvelles sources d'énergie telles que le nucléaire, l'hydrogène et l'ammoniac sont mis en œuvre. Selon Cuk Supriyadi, l'Indonésie dispose d'un potentiel d'énergie solaire de 3 294 gigawatts, d'énergie éolienne de 155 gigawatts et d'énergie hydroélectrique de 95 gigawatts. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, ouvre un accès au marché alternatif pour les produits de crevettes indonésiens dans un certain nombre de pays en Asie, en Afrique et en Europe. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a déclaré lundi dans sa déclaration à Jakarta que la Chine est également un marché alternatif pour les produits indonésiens de crevettes. Cela fait référence à la forte croissance du marché chinois de la crevette qui a augmenté de manière très significative au cours des 5 dernières années 2018-2022, soit 49% par an et atteindre 6,3 milliards de dollars américains en 2022. En ce qui concerne les efforts visant à ouvrir un accès au marché alternatif, Sakti Wahyu Trenggono encourage également la consolidation et la participation active des agriculteurs, des fournisseurs, des transformateurs, des associations de crevettes, de la Prindo ou Association indonésienne des entrepreneurs de commerce de détail, de la PPGI ou Association indonésienne des fournisseurs de services de restauration, de la PHRI, Association des hôtels et restaurants indonésiens, pour accroître l'adoption sur le marché intérieur. 9 jeunes indonésiens de plusieurs organisations et institutions islamiques ont été invités par le gouvernement japonais à participer au programme de Genesis au réseau d'échange Japon-Asie de l'Est pour les étudiants et les jeunes du groupe de consolidation de la paix. Ils viennent de Nahdlatul Ulama, NU, de Muhammadiyah, de la Mosquée Istiqlal et de l'Université islamique d'État Syarif Hidayatullah. L'ambassadeur adjoint du Japon en Indonésie, Katsuro Nagai, a déclaré lors de leur départ lundi 22 janvier que les participants auraient l'occasion de visiter plusieurs lieux intéressants liés à la culture islamique et aux lieux historiques du Japon.
They have a chance to visit one of the mosques.
Ils ont la chance de visiter des mosquées et également le centre de la culture islamique de Tokyo. Et aussi, comme je l'ai dit, le point culminant de leur séjour est la famille d'accueil à Nagasaki. Les participants devraient arriver au Japon mardi matin, le 23 janvier, et participeront à ce programme jusqu'au 30 janvier 2024. Genesis est un programme annuel du gouvernement japonais qui vise à présenter la société, la culture et le progrès technologique japonais sous tous les aspects. L'ambassadeur adjoint du Japon en Indonésie espère également qu'en participant à ce programme, les participants pourront jouer un rôle actif en tant que pont dans le renforcement de l'amitié entre le Japon et l'Indonésie. Le ministère de Tourisme et de l'Opéra Créative, Sandiaga Uno, a déclaré que la mise en œuvre de l'événement national Charisma, KEN, a un impact positif significatif sur la durabilité de l'économie régionale et nationale. Cela a été transmis par Sandiaga Uno dans l'entretien spécial avec RRI Voice of Indonesia à Jakarta lundi 22 janvier 2024. Selon Sandiaga Uno, la mise en œuvre du KEN 2023 a contribué à l'augmentation de la production de biens et de services atteignant 212 milliards de rupiah, le produit intérieur brut PIB atteignant 200 milliards de rupiah, avec une valeur de rotation de l'argent de 12,4 millions de rupiah.
Pelaksanaan KEN tahun 2023 berkontribusi nilai produksi dan barang jasa output Indonesia.
La mise en œuvre de KEN en 2023 contribuera à la valeur de la production et des services indonésiens de 212 milliards de rupiah et à un PIB de près de 200 milliards. La valeur de rotation d'argent avec 7,4 millions de visiteurs atteignant 12,4 billions. Sandiaga Uno a en outre indiqué que l'impact positif de la tenue de KEN 2023 ne s'est pas arrêté là, mais a également permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 11 399 acteurs économiques impliqués dans l'événement. Sur la base des résultats de l'entretien en face à face, Sandiaga Uno a révélé que KEN 2023 a réussi à augmenter le chiffre d'affaires de 76,7% des acteurs commerciaux à plus de 10 millions de rupiah. Par rapport aux jours normaux, le chiffre d'affaires supplémentaire augmente de 50 à 100%. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Deuxième débat vice-présidentiel ». Le deuxième débat pour les candidats indonésiens à la vice-présidence qui fait partie de la série d'élections générales de 2024 au quatrième débat de l'élection présidentielle a eu lieu dimanche le 21 janvier 2024 au centre du congrès de Jakarta. Le débat se compose de 6 segments basés sur le règlement de la Commission électorale générale, KPU. Le deuxième débat vice-présidentiel était la dernière apparition de trois candidats, à savoir Muhammad Iskandar, numéro 1, Gibran Raka Buming Raka, numéro 2, et Mahfud MD, numéro 3. Ce thème est crucial pour répondre au changement climatique qui menace la survie même de l'humanité dans diverses régions du monde, y compris en Indonésie. La sécurité alimentaire, l'agriculture et la qualité de la vie humaine sont en jeu, tandis que les questions liées aux ressources naturelles et à l'environnement doivent être gérées avec sagesse. Le deuxième débat a également porté sur l'exploitation minière, notamment le nickel et ses dérivés, la répartition des terres, la greenflation. Chaque candidat à la vice-présidence a présenté les idées et les politiques qui seraient adoptées s'il était élu vice-président indonésien. Il y a quelque chose d'un peu intriguant dans la question de la greenflation soulevée par l'un des candidats à la vice-présidence lors du débat d'hier, qui est à son tour devenu un discours public. Il semble que le problème de la greenflation en Indonésie soit quelque peu différent de ce qui se passe à l'étranger. En Indonésie, la greenflation a tendance à concerner les matières premières vertes, à savoir les produits agricoles. Cependant, le problème de la greenflation à l'étranger a été déclenché par une augmentation des prix des biens liés à la transition verte. Muhammad Iskandar a souligné l'importance de l'éthique dans toute l'élaboration de la politique, en particulier celle concernant la vie de nombreuses personnes. Pendant ce temps, Gibran Raka Buming Raka a expliqué qu'il révoquerait tous les permis d'investisseur s'il était prouvé qu'il violer les réglementations sur les ressources naturelles et l'environnement. Pendant ce temps, Mahfud MD expliquait que toutes les activités doivent se référer à l'article de la Constitution de 1945 qui stipule que toutes les ressources potentielles de l'Indonésie doivent être utilisées au profit du peuple. Il a observé la nécessité de renforcer l'application des lois contre les contrevenants aux ressources naturelles et à l'environnement. Quelles que soient les promesses, les idées, les propositions et les innovations des candidats à la vice-présidence, nous les attendons après l'investiture en octobre 2024. Surtout les 100 premiers jours du mandat qui se transforment généralement en débat public. Tous les candidats à la vice-présidence ont des capacités et des aptitudes différentes. En dehors de cela, chaque candidat à la vice-présidence a des forces et des faiblesses auxquelles il convient de prêter attention, en particulier ses antécédents et son leadership. Selon les derniers résultats de l'enquête, l'éligibilité des trois candidats à la présidentielle et à la vice-présidence a fluctué en fonction de leur succès dans le débat sur l'élection présidentielle. Le quatrième débat de l'élection présidentielle, qui est également le deuxième débat vice-président est une étape cruciale de la campagne, notamment pour les candidats vice-présidents, car c'est la dernière opportunité pour eux de gagner la sympathie du public avant le jour des élections générales du 14 février 2024. C'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 janvier 1942, la journée patriotique de Gorontalo. Le jour de la proclamation de Gorontalo est un moment historique pour le peuple de Gorontalo dans la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie. Cette proclamation a été réalisée 3 ans plus tôt que la proclamation de l'indépendance indonésienne à Jakarta en 1945 par Soekarno et Mohammed Hatta. La proclamation de l'indépendance de Gorontalo a été lue par Nane Warthabone et accompagnée par Kusno Danupoyo. Tous deux sont connus par les habitants de Gorontalo sous le nom de Dwi Tunggal de la terre de Sulawesi. La proclamation de l'indépendance a eu lieu dans la cour de la poste de Gorontalo, suivie du lever du drapeau rouge et blanc vers 10 heures du matin, heure locale, et du chant de la chanson Indonesia Raya. Passons maintenant à l'événement du 23 janvier 1947, la naissance de Megawati Soekarno-Putri. Megawati Soekarno-Putri est née à Yogyakarta le 23 janvier 1947. Elle a été la cinquième présidente de l'Indonésie à avoir exercé ses fonctions du 23 juillet 2001 au 20 octobre 2004. Megawati a été la première femme présidente d'Indonésie et la fille du premier président indonésien Soekarno, qui a ensuite suivi les traces de son père en tant que cinquième président d'Indonésie du 23 juillet 2001 au 20 octobre 2004. Le 20 septembre 2004, elle perd les voix face à Susilo Bambang Yudhoyono au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2004. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la première fête de la République des Philippines. Le premier jour de la République des Philippines, ou appelé Araw NG Republika NG Filipino en Tagalog, est un jour férié annuel aux Philippines qui tombe le 23 janvier. Cette commémoration annuelle a été instituée le 5 avril 2018 par le président Rodrigo Duterte. Cette journée a été créée pour commémorer l'anniversaire de la proclamation de la Première République des Philippines, également connue sous le nom de République de Malolos par le général révolutionnaire Emilio Aguinaldo, le 23 janvier 1899 à Malolos, Bulacan. Cette commémoration est une journée spéciale pour le peuple philippin comme journée pour célébrer la liberté et le courage national. C'est juste tard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Thank you. sejenak saja. Walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya, aku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan, berikan ku kesempatan, berikan ku kesempatan untuk memilikimu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Ministère indonésien de l'industrie encourage l'industrie de transformation de la viande à continuer de se développer » avec moi Audrey. Chaque jour, le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie encourage l'augmentation du potentiel de l'industrie de transformation de la viande. D'une solution consiste à formuler des politiques qui peuvent aider cette industrie à se développer et à se maintenir. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'agro-industrie au ministère de l'Industrie, Putu Juli Ardika, dans son discours à la conférence nationale de l'Association nationale des transformateurs de viande Indonésie, NAMPA, à Jakarta mercredi 17 janvier. Cité sur le site web du ministère indonésien de l'Industrie, Putu Ardika a déclaré que l'augmentation de la demande publique de produits alimentaires transformés est l'une des choses qui déclenche des opportunités pour l'industrie de transformation de la viande à développer le marché intérieur des produits carnés transformés. Selon Putu Ardika, cela est conforme au programme du gouvernement visant à augmenter la consommation nationale de protéines animales afin de réduire les taux de retard de croissance et de malnutrition. Selon le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la consommation nationale de bœuf est actuellement de 2,25 kg par habitant par an, tandis que la consommation de viande de poulet est de 8,37 kg par habitant par an. Cependant, d'après les données de Mintel, une société d'intelligence marketing basée à Londres, la croissance de l'industrie de transformation de la viande en Indonésie est considérée comme très rapide, voire la plus rapide au monde. L'industrie de transformation de la viande en Indonésie compte actuellement 64 entreprises, avec une valeur d'investissement de 3,45 billions de roupies, et c'est dirigé par 25 839 personnes. La performance des exportations de produits carnés transformés en 2023 connaîtra une augmentation significative, atteignant 80% par rapport à 2019. La valeur des exportations en 2023 atteindra 3,5 millions de dollars américains, soit une augmentation par rapport aux 2,8 millions de dollars américains atteints en 2019. Putu a expliqué que la valeur des exportations est encore faible par rapport aux principaux pays producteurs de viande transformée dans le monde. Mais cela montre que le potentiel d'exportation de produits carnés transformés est assez élevé et connaît une croissance significative. Putu a ajouté que les performances de l'industrie de transformation de la viande était influencé en partie par les changements dans le mode de vie de certaines communautés urbaines qui exigeaient que ce soit plus rapide et plus instantané. Cela a encouragé une consommation accrue d'aliments transformés, y compris de produits carnés transformés. Il a expliqué que la croissance de la consommation de bœuf et de volaille en 2023 augmentera respectivement de 8,20% et 12,3% par rapport à 2019. La croissance de la consommation de bœuf en Indonésie est en troisième position dans l'ASEAN, après le Vietnam et la Malaisie, tandis que la croissance de la viande de volaille en Indonésie est en troisième position après le Vietnam et les Philippines. Selon Putu, l'industrie de transformation de la viande sera confrontée à l'avenir à des défis mondiaux de plus en plus complexes. Parmi ceux-ci figurent les conditions géopolitiques dues à la guerre qui n'est pas encore terminée entre la Russie et l'Ukraine et Israël et Palestine, une diminution des approvisionnements alimentaires et énergétiques sur le marché mondial, une inflation élevée dans plusieurs pays développés, une augmentation des taux d'intérêt et un baisse du taux de change de la roupie. Cependant, Putu estime que l'Indonésie peut transformer ses défis en opportunités. Putu a déclaré que le ministère indonésien de l'Industrie avait préparé un certain nombre de politiques visant à encourager la croissance de l'industrie nationale de transformation de la viande. Parmi celles-ci figurent l'exonération des droits d'importation sur les machines destinées au développement industriel et les incitations fiscales dans le contexte de la reprise économique, ainsi que la formulation des politiques tarifaires au moyen d'instruments commerciaux dans le cadre de l'accord de libre-échange ALE. Putu a également déclaré que le ministère de l'Industrie avait invité les acteurs nationaux de l'industrie de transformation de la viande à continuer de développer cette industrie afin de renforcer l'existence et la compétitivité de cette industrie face à la concurrence mondiale. Mon cher Jouetard, c'est tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la plage de Gemah Tulungagung. Tulungagung dans l'Est de Java possède des attractions balnéaires intéressantes à visiter. L'une d'elles est la place de Gemah Tulungagung. Cette place a une eau de mer bleue, claire et propre. Elle est située dans le village de Geboirang, le district de Besuki, dans la région de Tulungagung. Depuis le centre-ville de Tulungagung, vous devez parcourir 37 km, soit environ une heure si les conditions de circulation sont fluides. Les prix du billet d'entrée dans les lieux touristiques le week-end est 7 500 rupies par personne, tandis que du lundi jusqu'au vendredi, il est 5 000 rupies par personne. La plage de Gemah possède 2 km de sable brun. La combinaison du sable et de l'eau de mer bleue ajoute au charme de la plage. Elle est également entourée de pins, de gros rochers et de falaises de corail. La plage a des vagues qui ne sont pas trop hautes. Elle est donc sûre pour ceux d'entre vous qui souhaitent nager sur cette plage. Vous pouvez également profiter de l'atmosphère de la plage en vous essayant sur une natte tout en admirant la vue environnante et en respirant l'air frais. Pour profiter de la beauté de la nature environnante, vous pouvez vous essayer à la conduite d'une moto VTT. Payé seulement 20 000 rupiah, vous pouvez louer une moto de VTT pendant 20 minutes. Vous pouvez également louer un bateau aux pêcheurs tout en profitant des eaux claires de la plage de Gemah. Le prix est environ 10 000 rupiah par personne. Autour de la plage se trouvent d'imposantes forêts de pins. Vous pouvez prendre des photos avec une forêt de pins en arrière-plan et n'oubliez pas de regarder le magnifique coucher de soleil sur la plage de Gemah. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Menyapa dirinya. getaran itu masih ada. Aku dekat dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia sungguh mempesona. Bila aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie, du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Soyez prudent lorsque vous marchez. Bonne écoute. Chargeur, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Soyez prudent lorsque vous marchez. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une amie de communauté de blog de Chris. Bonne écoute.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah. Berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Ce soir, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé « Hati Hati Melangka ». Hati Hati Melangka, soyez prudent lorsque vous marchez. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Hati Hati. Hati Hati, soyez prudent. Melangka. Melangka, marcher. Hati Hati Melangka. Hati Hati Melangka, soyez prudent lorsque vous marchez. Melewati. Melewati, passer. Jembatan. Jembatan, pont. Kayu, kayu, bois, licin, licin, glissant, sudah dekat, déjà proche, sungai, sungai, rivière, malam ini, ce soir, menginap, menginap, rester pour la nuit, kapal, kapal, bateau. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu le mot « hati hati melangka ».« Hati hati melangka », »,« soyez prudent lorsque vous marchez ». Dans ces mots, il y a le mot « hati hati ».« Hati hati », »,« soyez prudent ». L'expression « hati hati », »,« hati hati », »,« soyez prudent » a pour fonction d'avertir quelqu'un d'être à l'affût. Dans ce contexte de la conversation, l'expression hati hati, hati hati, soyez prudent, est utilisée par Naomi pour appeler à Chris d'être prudent lorsqu'il marche sur un pont en bois glissant. Chers auditeurs, un autre exemple. Allez écouter un autre exemple d'utilisation du mot hati hati. Hati hati. Soyez prudent. Dans une autre phrase, hati-hati di jalan Chris, hati-hati di jalan Chris, soyez prudent sur la route, Chris. Jalan sedang ramai, hati-hati. Jalan sedang ramai, hati-hati. La route est très fréquentée, soyez prudent. Chaque jour, pour voyager le long de la rivière Seconnière jusqu'au site de réhabilitation des orang-outans, les visiteurs utilisent généralement un bateau kloto. Les bateaux kloto sont des bateaux typiques en bois. Le nom kloto vient du bruit d'un moteur de bateau produisant un son kloto, kloto, kloto. Les bateaux kloto sont utilisés pour proposer des voyages organisés à travers le parc national de Tanjung Puting. Actuellement, de nombreux bateaux kloto sont équipés de diverses installations pour passer la nuit en voyage. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kita akan melewati jembatan kayu. Hati-hati melangkah. Kayunya licin.
Wah, berarti kita sudah dekat dengan sungai ya?
Iya, malam ini kita akan menginap di kapal.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu. gadis yang menantimu.
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Ahai, mari mengukir bulu sumpitan, pinang muda dan sirih junjungan, bersatu dalam jambangan. Bangkitlah negeri, menjunjung tinggi marwah agar bertuah.
Satu tekad, satu kan semangat, membangun negeri dalam sebati, mohon pada Ilahi.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.